qu'il est 8h, on trouve Léa Journaud pour les infos. Bonjour Léa.
Bonjour. L'entreprise Tamoil et la commune de Colombey-Murat ont présenté hier leur vision pour l'ancien site occupé par la raffinerie. Celui-ci sera découpé en parcelles avec notamment un espace de loisirs et des zones industrielles que se partageront plusieurs entreprises. Le site utilisera le réseau actuel de routes. La mobilité douce fera partie des nouveaux aménagements, mais également le train. Le réseau ferroviaire du site pourrait être étendu jusqu'à Satom. La mobilité sera donc un enjeu primordial sur ces quelques 147 hectares. C'est ce qu'explique Stéphane Traxler, il est le directeur de Tamoil Suisse.
Oui, mais la zone est immense, elle est exceptionnelle du point de vue de sa situation. La Satom entend se développer et toutes les entreprises qui nous ont contactés, ou une grande partie des entreprises qui nous ont contactés, nous ont demandé si les parcelles étaient liées au chemin de fer. Alors, certes, il y a la ligne du Tonkin, mais nous pensons que comme nous avons la gare de chargement à Aigle, qui est de l'autre côté du Rhône, nous sommes dit que être lié à la ligne du Simplon serait une plus grande opportunité pour les entreprises et permettre un meilleur développement de la zone. Dès lors, nous avons eu l'idée de faire une passerelle, un pont, un lien entre Aigle et Colombey pour créer un plus grand pôle d'activité.
Stéphane Traxler au micro de Joël Espy. Des zones seront créées sur tout le site. Si des portions seront industrielles, on y trouvera également une surface dédiée aux loisirs et qui fera un lien entre le Rhône et le village de Colombey-le-Grand. 2020 aura rimé avec déficit pour Saint-Maurice. Sans surprise, puisque la commune prévoyait déjà un excédent de charges de 720 000 francs dans son budget. Il se monte finalement à 1,2 million. Parmi les facteurs qui expliquent ce résultat, un litige judiciaire. La commune a dû verser 1,3 million à Salvatore Strombo, propriétaire d'un bâtiment endommagé par des travaux de terrassement en 2008. L'affaire n'a toutefois pas empêché le Conseil général de valider les comptes à l'unanimité. Diane Turin, chef du groupe LR+G.
C'est clair qu'un événement extraordinaire comme cette affaire dite Strombo nous plombe les comptes entre guillemets cette année, ce qui est très regrettable. Malheureusement, voilà, on n'a pu que prendre acte que voilà, on est obligé de payer cette somme et puis essayer de mettre en garde la municipalité à ce qu'une telle situation ne se reproduise pas. Mais je crois que ce sera le cas. Comme l'ont dit mes collègues chefs de groupe, on est aussi soulagés qu'on puisse mettre ça derrière nous. Et puis on voulait vraiment soulever que voilà, la commune n'était pas fautive en la matière. Sa responsabilité découlait uniquement du fait qu'elle était propriétaire et puis voilà, qu'elle est un petit peu victime entre guillemets aussi de la situation.
Autre facteur qui explique le déficit, les 800 000 francs de participation aux frais de fonctionnement de la Haute École Pédagogique. Un sujet réalisé par Isabelle Bertolini. Près de 1300 élèves ont participé aux rencontres interactives en ligne des webinaires du métier. Organisés en conséquence de l'annulation du Salon des métiers et de la formation 2020 de Lausanne, ces webinaires se sont déroulés sur plusieurs samedis entre mars et juin. En tout, ils ont présenté 128 métiers aux élèves de 10e et 11e, ont annoncé ce matin les organisateurs dans un communiqué de presse. À peine lancé, déjà fini. Le sommet réunissant Vladimir Poutine et Joe Biden a pris fin hier aux environs de 17h30. Le président russe est parti le premier, suivi du président américain. Cette rencontre a fait converger vers Genève des centaines de journalistes suisses, mais aussi et surtout étrangers. Elle a mené les autorités de la ville à boucler tout le périmètre du bord du lac, forçant les habitantes et les habitants à rester chez eux ou à changer drastiquement leurs habitudes. Pour quel résultat ? Hélène Yost, notre correspondante à Genève, dresse un premier bilan de l'événement.
Durant un peu plus de 24 heures, Genève s'est transformée en zone fortifiée, une opération réussie sur tous les plans. Côté sécurité, aucun incident n'est venu distraire l'attention de la rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine. La Villa Lagrange a ainsi bien rempli pour une journée son rôle de centre du monde. Côté diplomatique, les dirigeants sont entrés et ressortis avec le sourire, ce qui est déjà bon signe, et les délégations américaines et russes ont travaillé durant 4 heures. Concrètement, comme prévu, ce sommet ne débouche sur aucune décision, excepté celle hautement symbolique de replacer des ambassadeurs à Moscou et à Washington. Joe Biden et Vladimir Poutine ont tout de même pu se parler presque en tête-à-tête durant une heure et demie, et c'est déjà beaucoup à les entendre. Différents thèmes ont ainsi été abordés, comme la cybersécurité, les droits humains ou encore les dossiers internationaux sensibles tels que l'Iran ou l'Ukraine. Pour le président américain, le but était clair, il ne s'agissait pas de bâtir la confiance, mais bien pour chacun de faire avancer ses intérêts propres. Et les deux hommes ne sont pas dupes, il leur reste encore beaucoup de travail.
Rappelons que le Conseil fédéral a pu lui aussi s'entretenir avec les deux chefs d'État. Selon le président Guy Parmelin, l'atmosphère était chaleureuse lors de chaque discussion. Un médicament contre l'arthrite, le tofacitinib, a démontré des effets positifs pour soigner des patients hospitalisés en raison du Covid-19 lors d'un essai clinique. Ce médicament est autorisé aux États-Unis pour traiter notamment la polyarthrite rhumatoïde. Le cachet a été testé lors d'un essai clinique sur 289 patients hospitalisés avec des formes graves du Covid à travers 15 sites au Brésil. La moitié des patients a reçu le médicament et des soins classiques, l'autre moitié un placebo et des soins. Après 28 jours, 5,5% des membres du groupe placebo sont décédés contre 2,8% des patients sous tofacitinib. En football, vous en parliez justement Guillaume avant le début de ce journal, la Suisse a subi une lourde défaite contre l'Italie 3-0 hier soir pour son deuxième match de l'Euro 2021. Face à une squadra beaucoup plus forte et concentrée qu'elle, la Nati a été quasiment inexistante. Un doublé de Manuel Locatelli et un but de Ciro Immobilier à la 89e a scellé la rencontre. À la fin du match, les joueurs de Vladimir Petkovic étaient forcément déçus, à l'image du milieu de terrain Granit Xhaka.
Absolument, la déception est immense. Nous espérions quelque chose de totalement différent. Nous voulions offrir un bon match aux supporters qui ont fait le déplacement et à ceux qui nous ont suivis devant la télévision. Nous voulions montrer une réaction. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé, pour plein de raisons. Dans le vestiaire, la déception était grande. C'était très silencieux. L'entraîneur a dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes déçus. Demain, nous le serons sans doute encore. Ensuite, il faudra retrouver une dynamique positive, car nous devons absolument gagner le dernier match.
Des propos recueillis et traduits par notre confrère de la RTS, Christophe Cerf. Ce dernier match, c'est dimanche contre la Turquie, afin de tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale de cet Euro 2021. Turquie qui, elle, a perdu hier dans l'autre rencontre du groupe A face au Pays de Galles 2-0. Et un peu plus tôt dans la poule B, la Russie avait disposé de la Finlande à Saint-Pétersbourg sur le score de 1-0. Et puis on termine avec de l'automobilisme. La course de côte de Massonger doit tirer un trait sur son édition 2021. Comme l'an dernier, la situation sanitaire a poussé les organisateurs à annuler cette manche du championnat suisse de la montagne. D'abord prévue les 10 et 11 juillet, puis les 21 et 22 août. L'épreuve organisée entre la cité chablaisienne et Verossa ne se tiendra donc pas avant l'été 2022. Aucune date n'a encore été communiquée pour le moment.